Semaine Sainte 2019.
Semaine Sainte 2019, le MAG, Emmanuel Pella.
Jeudi Saint, quand on est un croyant, c'est toujours un peu en tremblant que l'on prononce ces mots, le sentiment d'entrer en terre incognita, en terre inconnue. Et c'est un peu le même sentiment qui vous prend aux portes d'un Carmel, l'impression d'être à l'entrée d'une terre sacrée, celle de la présence de Dieu. À Toulouse, le vent d'autan qui fait entendre son sifflement au cœur même du couvent, éployé arbres et palmiers, rend l'atmosphère d'autant plus solennelle. Un jeudi saint plein de gravité, un jeudi saint au Carmel. Cette émission, donc première de notre Tridium Pascal, sur ce titre tout simple, Jeudi Saint au Carmel, nous sommes avec le frère Maximilien Marie. Vous êtes prêtre, frère carme donc, de ce couvent, et ce qu'on peut dire aussi, entre autres, c'est que vous êtes maître de chœur. C'est vous qui avez, on va dire, qui avez orchestré ou qui allez orchestrer toute la liturgie. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Merci de nous accueillir chez vous. Alors je crois qu'Isabelle l'a précisé ce matin, mais je vais le redire parce que tout le monde n'était pas forcément là. C'est votre ancienne bibliothèque, c'est ça, dans une partie qui pour l'instant n'est pas habitée du monastère.
Oui, c'est le scriptorium des frères capucins quand ils étaient dans cette maison. Et donc ils faisaient leur lectio ici, ils lisaient ici. Et pour nous, c'est tout simplement la salle internet aujourd'hui.
Voilà, tout simplement. Alors, il faut dire en effet, le propos de l'émission n'est pas de faire l'histoire du couvent, mais que autrefois c'était des capucins et qu'on est en face. Alors, pardon pour ceux qui vivent loin de Toulouse, mais à Toulouse, il est assez connu. Nous sommes en face de la cellule du père Marie-Antoine de Lavore, qui est en odeur de sainteté, appelé le saint de Toulouse. Pouvez-vous nous dire un mot, nous décrire un petit peu ce qu'il y a juste en face du couloir ?
Oui, alors nous avons une toute petite cellule où habitait ce père Marie-Antoine. Le père Marie-Antoine était donc capucin. Les capucins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une race, une espèce de toute la grande famille des franciscains. Il a fondé ce couvent dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il a vécu ici pendant longtemps et c'était vraiment un homme d'une grande, très très grande ferveur, un grand apôtre qui a motivé les foules. Et à sa mort, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes pour son enterrement. On parle de 30 à 40 000 personnes à Toulouse. Donc vraiment une très très grande personnalité qui devrait être béatifiée dans les mois à venir.
Voilà, qui pour l'instant est enterré dans la chapelle de votre couvent. On peut se recueillir sur sa tombe. Alors jeudi saint au Carmel. Tout un programme. On va donc essayer d'aider les auditeurs de Toulouse ou d'ailleurs, puisque nous avons rejoint donc des auditeurs de Radio Ecclesia à Nîmes, Radio Lapourdi pour le diocèse de Bayonne et Radio Fidélité en Mayenne. On leur souhaite la bienvenue et on va se donner du mal à l'occasion de ce tridium pour essayer les accompagner dans ce temps liturgique. Aujourd'hui, le propos évidemment de plonger dans la réalité de ce que l'Église va nous donner à contempler. Ce que je vous propose et ce que je proposerais à chaque frère, c'est de commencer par situer la vie du Carmel, la préciser au long de ces jours. La première chose qu'il faut dire, c'est l'image que j'ai en fait quand je passe une tête chez vous ici, c'est que on a l'impression en fait d'hommes de Dieu qui sont accrochés à une falaise. Moi, c'est l'image que j'ai. Et vous me disiez en préparant l'émission que en fait le Carmel, fondamentalement, ce n'est pas d'abord un ordre religieux, mais même si vous êtes un ordre monastique mendiant, une communauté, mais c'est d'abord une montagne. Expliquez-nous ça.
Oui, on l'oublie souvent parce que quand on entend Carmel, on entend carmélite bien souvent. Donc on imagine des petites sœurs et puis on oublie qu'à l'origine, c'est juste une montagne. C'est une toute petite chaîne de montagnes qui est en plein cœur d'Israël. Et si vous regardez la carte d'Israël, hein, vous avez ce grand littoral qui est tout droit. Il y a un petit nez, il y a juste un petit nez au milieu de ce littoral. C'est la chaîne du Carmel qui vient plonger dans la Méditerranée. Voilà. Et sur cette petite chaîne de montagne, qu'on appelle donc le Mont Carmel, a vécu un homme immense, un grand prophète, Élie. Élie de Tishbé, dont il est question dans l'Ancien Testament.
Voilà, donc c'est à l'extrémité, c'est au-dessus de Haïfa, il paraît qu'on voit la baie. Exactement. De Haïfa, c'est un endroit splendide, où on voit du coup un endroit assez luxuriant, parce que je crois qu'Haïfa c'est un endroit qui est assez riche, et donc Élie y a résidé. Alors on l'appelle aussi donc le Mont Saint-Élie. Élie, qu'est-ce qu'on en sait en fait? Est-ce qu'on sait que s'il a vraiment existé, ce grand prophète dont on parle dans l'Ancien Testament, on en parle au Livre des Rois, vous allez certainement nous en parler dans un instant, est-ce qu'on est sûr en fait qu'il existait cet homme?
Bon, c'est toujours la même question sur l'Ancien Testament. Les traces historiques sont relativement pauvres. Hein. Mais il y a une tradition qui est quand même très riche, qui est très profonde sur le prophète Élie. On n'a pas vraiment de raison de douter qu'il ait existé, d'autant plus que le pèlerinage continue aujourd'hui, depuis les origines. Les Juifs, aujourd'hui, continuent à venir nombreux se recueillir.
Ah, ils vont au Mont Carmel.
Oui, ils vont au Mont Carmel, ils vont prier. Moi, j'en ai vu venir prier. Donc il y a vraiment une tradition continue. Depuis les origines, on n'a pas vraiment de raison de douter qu'Élie ait existé.
À quoi il ressemblait cet homme alors ? Parce que c'est vrai que c'est une des grandes figures de l'Ancien Testament. C'est un homme qui a fait de multiples prodiges. Il a ressuscité, enfin il a prié en tout cas pour ressusciter un enfant. Le feu est descendu du ciel, nous dit les Écritures à sa prière. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait cet homme ? On imagine évidemment un colosse avec une grosse barbe, mais vous connaissez peut-être pas son physique, mais son histoire, qu'est-ce qu'on en sait ?
Son histoire est racontée dans la fin du premier livre des Rois, le début du deuxième livre. Le récit est assez étonnant, assez épique, et effectivement, c'est un homme de feu. C'est un homme avec un caractère bien trempé, sans doute, et en même temps, c'est un homme d'une grande intériorité, et du coup, fondamentalement, un ermite, un solitaire qui est enflammé par le Seigneur et qui part à la rencontre de Dieu et qui part ensuite envoyé par Dieu pour porter son expérience au monde.
On peut parler du fameux épisode là, où il se retrouve en fait caché au désert, c'est ça, je crois, dans l'Horeb.
Oui.
Il fuit parce qu'il a fait massacrer 450 prophètes.
Oui.
Dieu se révèle à lui. Ça, c'est un passage qui est probablement assez connu d'un certain nombre d'auditeurs. Racontez-nous cet épisode où en fait il est donné à Élie de se tenir en présence de Dieu. Et ça dit aussi quelque chose du Carmel.
Oui, tout à fait. Même si c'est pas sur le mont Carmel qu'il a fait cette expérience initiale, mais c'est quand même fondamental et très important chez lui. Vous savez que dans les livres qui précèdent, et notamment avec la figure de Moïse, les rencontres de Dieu étaient souvent dans les tremblements de terre, dans les orages, dans la puissance de Dieu qui se manifestait dans la nuée. Avec Élie, c'est totalement autre chose. Et au cours de cette rencontre, il est sur une montagne et il entend cet appel à sortir de sa grotte parce qu'on lui dit que Dieu va passer. Alors il y a un grand ouragan si fort qu'il fendait les montagnes, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, et Dieu n'est toujours pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Et à ce moment-là, Élie se voile le visage, et sort de sa grotte et adore le Seigneur. Se voile le visage, c'est une réminiscence de l'expérience de Moïse, auquel il avait été annoncé que l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et donc il faut se voiler le visage, tellement Dieu est tout puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Élie, dans cette brise de fin silence, dans ce bruit de silence, a senti la présence de Dieu. Il a compris que Dieu était là. Dieu se manifeste dans le silence. Et c'est important de bien comprendre que ce n'est pas seulement une petite brise légère, c'est un bruit de fin silence. Vous voyez, il y a comme une opposition assez étrange, hein, mais on sent parfois, dans un silence, une très grande densité. Voilà, c'est ça l'expérience d'Élie, et c'est ça que nous voulons vivre avec lui.
Et c'est ça aussi l'expérience du Carmel. Alors justement, ça vaut le coup d'en dire un mot. Je faisais cette introduction en disant que c'est vrai que c'est toujours assez solennel de rentrer dans un monastère, mais au Carmel, en tout cas ici, alors qu'on est au cœur de la ville, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, tout est simple, austère. On a même là des cellules à côté. Vous avez eu la gentillesse de nous prêter qui sont pas utilisées en ce moment. C'est une vie d'ascète, hein. Mais ce qu'on cherche, c'est quoi ? C'est au cœur du silence d'entendre justement ce murmure et puis d'avoir la certitude que Dieu existe, qu'il est là, de le suivre.
Voilà, c'est ce bruit de silence. On est à la recherche de ce bruit de silence. Et en fait, je crois que dès le début, c'est ça, 12e, 13e siècle, des anciens croisés se retrouvent sur cette montagne et cherchent. Ils cherchent ce bruit de silence. Et donc, il y a une dimension érémitique, donc de vie d'ermite, donc de vie de solitaire, qui reste très forte aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons tous notre cellule et nous y passons le plus de temps possible.
La question que j'allais vous poser actuellement, pendant qu'on fait l'émission de radio, la plupart des frères sont en cellule, là,
silence
et en train de lire la parole de Dieu, c'est ça ?
Oui. À peu près jusqu'à 9h, 9h15, on est dans la lecture de la parole de Dieu et on cherche ce bruit de fin silence. Et avant les lodes que nous avons eues ce matin, à 7h30, de 6h30 à 7h30, nous avions une heure de prière ensemble, en silence, dans notre église et nous cherchions aussi ce bruit de silence.
Et vous en aurez une ce soir aussi, une heure aussi.
On en aura une ce soir aussi, et puis chaque frère ensuite, vivant dans sa cellule, ses offices, ses responsabilités, préparant ses apostolats ou travaillant sa philosophie, sa théologie pour les jeunes frères, et en même temps nous essayons d'être toujours à la recherche, attentif au passage de la brise légère.
J'aimerais que vous nous disiez un petit mot, parce que là vous l'avez évoqué rapidement, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du Carmel, même si peut-être qu'Isabelle en a parlé ce matin avec le frère Jean-Fabrice, votre prieur. Vous disiez donc au XIIe siècle, des hommes en fait sont allés vivre en Terre Sainte, donc c'est après les croisades si je ne me trompe pas. Donc ils sont quoi? Ils sont allés vivre dans la montagne, au Mont Carmel, et puis chacun avait sa grotte et chacun vivait comme vous ici, mais dans une grotte et sur une montagne, c'est ça?
Oui, c'est assez étonnant. Hein. D'anciens croisés, donc d'anciens soldats, manifestement tous européens, se sont retrouvés, c'était sans doute un petit groupe, on n'en sait pas grand-chose. Et la trace la plus sûre que nous avons, c'est la règle. Parce qu'ils se sont retrouvés, ils ont commencé à vivre ensemble, et puis ils ont voulu que cette forme de vie soit accueillie par l'Église. Ils sont allés voir l'évêque du coin, l'évêque de Jérusalem, Saint Albert de Jérusalem, et ils lui ont demandé d'écrire une formule de vie. C'est la règle du Carmel que nous avons. Nous sommes sûrs qu'elle date du tout début du XIIIe siècle.
On peut la lire d'ailleurs. Hein,
On peut la lire, tout à fait. Sur Internet, vous la trouvez sans problème. Elle est assez brève. Et Albert confirme le charisme qu'ils ont reçu, qu'ils essayent de vivre, et donne une forme un petit peu concrète, avec la vie en cellule, chacun dans sa grotte, et puis des temps de prière communs chaque jour, des temps de repas communs chaque jour. Il dit même ce qu'il faut faire pendant ces temps-là. Et donc, c'est cela que nous essayons de vivre.
On peut dire aussi, donc, il y a eu une réforme quand même au XVIe siècle, hein, de Sainte Thérèse d'Avila.
Oui, oui.
Voilà, ça vaut le coup d'en dire un mot avant qu'on se penche un petit peu plus dans la spiritualité du Carmel.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plein d'éléments à dire. Hein. Il faudrait évoquer la présence de la Vierge Marie qui est si importante depuis le tout début de l'histoire du Carmel. Hein, vraiment combien c'est fondamental. Rappeler qu'au début, au centre de cette règle, vraiment le précepte central, c'est méditer jour et nuit la loi du Seigneur et veiller dans la prière. Donc on reste vraiment des ermites. Et puis, après quelques décennies de vie sur le mont Carmel, les ermites ont dû fuir Israël, la Terre Sainte, à cause de l'invasion des Arabes. Ils se retrouvaient en Europe, et en Europe, ça a été une grosse période de crise. Il y a eu un adoucissement de la règle, et petit à petit, ça s'est un petit peu délité. Jusqu'à ce qu'arrive une autre femme de feu, hein, après Élie, qui est un homme de feu.
Sans barbe, mais avec bien du tempérament.
Voilà, c'est ça. Et Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, nous a poussé à retrouver la ferveur originelle, hein, la rigueur, mais en même temps la grandeur de cette règle qui a une saveur d'Orient, hein, avec une certaine radicalité.
Est-ce qu'on sait combien il y a de Carmel maintenant à travers le monde ou en France?
Alors, de Carmel, c'est difficile de vous répondre à travers le monde. Il y a à peu près entre 10 et 12 000 carmélites dans le monde, à peu près 4 000 carmes. En France, une centaine de carmes avec 6 ou 7 ou 8 couvents.
Voilà, donc 4000 personnes sur le Mont Carmel, ça ferait quand même du monde. Quelque part, c'est plutôt heureux pour vous que maintenant vous soyez répartis en d'autres lieux. Je dis ça évidemment en riant. Avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais qu'on précise un petit peu. Alors, je le dis aux auditeurs, ce qu'ils doivent se dire, mon Dieu, mais on est loin du jeudi saint. À chaque fois, on va essayer dans la première partie d'introduire ce qu'est la spiritualité du Carmel, qui, à mon avis, éclaire évidemment les mystères qu'on va méditer du jeudi, samedi, vendredi et samedi saint. Et puis après, on aura une méditation et un témoignage des frères, plus spécifiquement sur ce que nous donne à voir la liturgie. Vous avez cité « Méditer jour et nuit la loi du Seigneur et veiller dans la prière ». C'est donc extrait de votre règle. Et puis, il est dit aussi d'Élie, et je crois même que c'est dans les Écritures, qu'il se tenait en présence du Dieu vivant. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus? Probablement qu'on peut, être chrétien, on peut être pratiquant, et puis être quelque part un peu fasciné par la vie que vous avez, parce que se tenir en présence du Dieu vivant, on a l'impression que c'est réservé justement à des personnages qui nous paraissent parfois presque mythologiques, comme Élie, Moïse ou autre. Qu'est-ce que vous pourriez dire de se tenir en présence du Dieu vivant? Ça veut dire quoi?
En fait, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement central au Carmel. Dieu est présent en tout baptisé. un tout baptisé qui a reçu cette grâce de la présence de Dieu en lui. Et donc nous nous tenons en présence du Dieu vivant parce qu'il repose en nous. Et cette brise légère, en fait, elle est au-dedans de nous. Et se tenir en présence du Dieu vivant, c'est simplement descendre en soi et poser l'acte de foi que Dieu est là. Et cela, tous les chrétiens peuvent le faire.
Seulement vous, vous viviez de manière, on va dire, particulière. Vous le cherchez constamment, cette présence.
C'est le but, oui.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver au cœur donc, du silence de ce couvent des Carmes de Toulouse pour rentrer dans ce jeudi saint. Voilà, on fait une courte pause musicale et on vous retrouve tout de suite. Voilà, ce jeudi saint, donc en direct du Carmel, cette émission Vivante Église sur un format spécial, émission donc appelée Le Mag en ce Tridium Pascal. Nous sommes avec l'un des frères Carmes de ce couvent, dans une, non pas une cellule, mais il dit comment ça s'appelle ici?
C'est le scriptorium.
Le scriptorium. Scriptorium qui veut dire lieu d'étude?
Oui, oui.
Voilà, nous sommes donc avec le frère Maximilien Marie, qui est prêtre religieux donc carme du couvent des Carmes à Toulouse, et on le dit parce qu'il a bien du mérite, maître de chœur. C'est lui donc qui va orchestrer la liturgie pendant tout ce Tridium Pascal. Pour se plonger dans ce jeudi saint, vous me disiez que vous vouliez commencer par Notre-Dame de Paris. Alors je vous ai amené pour se mettre sous les yeux une photo certainement qu'un beaucoup d'auditeurs ont vue. C'est une photo prise du ciel, je ne sais pas si c'est pris d'un drone, où l'on voit la cathédrale donc de Paris en feu et on va dire toute la croix, hein, la croix de cette église prise en feu. Pourquoi est-ce que vous vouliez commencer ce jeudi saint par cette actualité?
Pour moi, c'est une image prophétique de ce qu'est en train de vivre l'église depuis plusieurs mois. Thérèse d'Avila a cette phrase très très forte au début du Chemin de Perfection, qui est l'un des ouvrages qu'elle a écrit. Elle dit « Le monde est en feu ». Oui.
Ça veut dire quoi, juste pour ceux qui auraient du mal à comprendre?
Ça veut dire que le monde est déchiré. Ça veut dire que le monde est en souffrance. Ça veut dire que le monde est traversé par des crises intenses. Voilà, le monde est en feu. Le monde est en feu. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église est en feu. Et ce qui est très très mystérieux, en même temps très dur et en même temps très beau, c'est que l'Église est en feu et pourtant elle est debout. C'est-à-dire que cette cathédrale Notre-Dame, aujourd'hui, elle est debout. Et non seulement elle est debout, mais la voûte est encore là. C'est très étonnant parce qu'on voit, cette photo de Notre-Dame en feu et on se dit, la voûte est tombée. Si c'est en feu, ça veut dire que tout est en train de brûler à l'intérieur. Et en fait, non. C'est vraiment la charpente qui a brûlé, et la voûte, sauf là où est tombée la flèche de Notre-Dame. Alors là, il y a un gros trou. Mais sinon, la voûte est restée intacte. Et c'est très surprenant. C'est-à-dire qu'en même temps, cette église, elle est ravagée. Et en même temps, elle est encore debout. Et c'est assez significatif de ce que nous vivons, je trouve.
Alors si on devait creuser en ce jeudi saint, donc cette méditation que vous nous proposez à partir de l'actualité, une église c'est aussi donc un bateau renversé, a-t-on l'habitude de dire, où la nef est donc, représente la coque du navire, et donc le toit, si c'est un bateau on va dire renversé, serait la coque. Qu'est-ce que Dieu peut nous dire à travers ces événements d'une coque qui brûle, n'est-ce pas aussi, vous parlez d'un monde qui est en feu, mais l'Église est en feu, on peut comprendre deux choses là-dedans, c'est-à-dire qu'elle est passée au feu, elle est purifiée, comme on peut le lire, je me suis noté entre autres des réflexions de Monseigneur Au Petit sur ce sujet, ou alors elle est attaquée, est-ce que ça serait un peu des deux, qu'est-ce que vous diriez ?
Benoît XVI le disait déjà en 2005, quand il a été élu pape, juste avant, l'Église est un bateau qui prend l'eau. Maintenant, l'Église est en feu. Je crois que c'est assez impressionnant. Et effectivement, on voit deux origines. D'abord, le péché de ses membres. Et on le voit très clairement actuellement, depuis plusieurs mois, la révélation de tous ces scandales. Et notre pensée va d'abord aux victimes, bien sûr. Le déchirement, il vient d'abord de là. Il est profond, il est intense. Il est particulièrement douloureux. Parce que nous vivons une fraternité sacerdotale, c'est-à-dire entre les prêtres, nous essayons de nous soutenir, de prier les uns pour les autres. Nous sommes très unis les uns aux autres. Et quand un membre souffre, eh bien les autres souffrent avec lui. Et voilà, nous souffrons avec ces prêtres qui ont péché. Nous souffrons bien sûr avec toutes ces victimes qui sont blessées très très profondément.
Vous souffrez, ça veut dire en fait, pardon, je pose la question de manière plus triviale, mais c'est-à-dire même pour le carme que vous êtes. Ça plombe, on a de la tristesse au cœur. Oui, ouais. Qu'est-ce que vous ressentez en fait,
précise ? Alors moi, ça va mieux depuis à peu près le début du carême. Mais c'est vrai que les premières semaines de l'année, j'étais KO, j'étais groggy, j'étais vidé, parce que vraiment, il y a une telle violence. D'abord, la réalité des actes est très très violente, et puis ensuite, le déchaînement médiatique est redoutable. Et rien n'est épargné. On a l'impression qu'on est tous passés au crible. Et c'est très dur, en fait. C'est très, très dur. Et puis, la réalité des actes est terrible. Donc, on est vraiment secoué.
Quel parallèle vous feriez avec le Jeudi Saint ? J'ai noté cette phrase de Monseigneur Au Petit, donc archevêque de Paris, où le péché abonde, la grâce surabonde. Quand Dieu révèle le péché de son peuple dans la Bible, ce n'est pas pour humilier, mais c'est pour que son peuple se convertisse de manière radicale. Quel parallèle on peut faire avec ce qui nous est donné de méditer aujourd'hui, avec ce que le Christ va vivre ?
Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait, dit l'évangile de Luc. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Entré en agonie. Et moi, je crois que l'Église est en agonie. Il y a une souffrance intime qui est au fond de son cœur, un déchirement total.
On pourrait citer aussi le pape François, je m'étais noté le pape François qui avait dit, c'était à l'occasion de ses vœux à la curie romaine, c'était en décembre dernier, je ne retrouve plus le passage, mais que la barque de Pierre, voilà, je retrouve le passage, dans le monde agité cette année, la barque de l'Église a connu et connaît des moments difficiles, elle a été assaillie par les tempêtes et par les ouragans. Tempête et ouragan, c'est quand même pas rien. Hein, c'est...
Oui.
On va dire ça, c'est ce que vous nous proposiez comme méditation pour l'actualité. Ce que vous souhaitiez aussi souligner, ou ce qu'on voulait aborder, et c'est moi qui vous l'avais suggéré, c'est que c'est vrai que le Jeudi Saint, vous avez cité ce passage des Évangiles où il est décrit, où Jésus est décrit, une angoisse qu'a vécu donc Jésus, tellement forte qu'il en perlait du sang. On sait d'ailleurs que en cas de grande terreur, ça peut arriver. Je crois que c'est les soldats pour la Première Guerre mondiale qui ont parfois vécu ça. Vous me disiez hors antenne que pour vous, en fait, c'est le moment où Jésus a le plus souffert. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?
Oui, je crois que à ce moment-là, il a vraiment pris conscience de tout ce qu'il allait vivre, de tout ce qu'il allait devoir porter, et que spirituellement, tout commence là. Et le poids immense des péchés de toute l'humanité, de tout le mal commis, lui tombe littéralement sur les épaules précisément à ce moment de l'agonie où il est seul. Il est seul, il a pris de la distance par rapport à ses disciples, il est dans la nuit, et à ce moment-là, tout ce péché lui tombe dessus. Et comme un poids immense et qui est bien au-delà des péchés
inhumain,
de son
époque. Si je puis dire. Inhumain, c'est inhumain. Parce que si on imagine que c'est toutes les misères du monde depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, ça fait quand même beaucoup.
C'est ça. Et tout repose sur ses épaules. Donc il faut imaginer ce poids complètement écrasant sur lequel il ploie, forcément. Et comment porter ça et comment est-ce qu'il a fait pour trouver ce courage de nous porter tous. Il nous porte tous à ce moment-là, dans la solitude. Et je pense que ça peut rejoindre beaucoup de personnes où on a le sentiment d'être écrasé sous un poids qui peut être terrible. Mais voilà, le Christ nous rejoint tous dans cette solitude intense et douloureuse.
Alors on voulait particulièrement parler de certaines situations parce que ce que le Christ vit en ces jours permet de rejoindre, du moins c'est l'espérance des chrétiens, hein, de bien des situations et des vies. Et j'ai souvent en tête à l'occasion de ce Jeudi Saint les personnes qui souffrent de maladies psychiques, qui ont connu ou connaissent des périodes de dépression, cette maladie terrible, ou même qui font ce qu'on appelle des burn-out aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Est-ce que le mystère qu'on médite aujourd'hui peut nous aider quand on vit ça ou quand on a des proches qui vivent ce type de situation terrible ?
Oui, moi j'ai en mémoire, une rencontre qui m'a profondément marqué, qui reste très vivante en moi, la rencontre d'une personne qui était victime de troubles psychologiques graves et qui en souffrait beaucoup, et qui m'a confié ça, et j'étais très impuissant devant cette souffrance, je ne savais pas quoi dire. M'est venue en tête l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse qui est rentrée au Carmel très jeune.
Alors racontez-nous, prenez votre temps, je vois le temps, on a du temps, donc vous pouvez contextualiser du coup.
Voilà, j'étais devant cet homme et je lui raconte cette histoire. Thérèse rentre au Carmel à l'âge de 15 ans et demi. Elle est toute jeune, elle a perdu sa maman quand elle avait 4 ans. Elle a 4 grandes sœurs et un papa qu'elle aime tendrement.
À la différence d'Elie, on est sûr qu'elle existait. Enfin,
voilà.
Je fais cette parenthèse.
Elie aussi.
Elie aussi, bien sûr, mais plus proche de nous en tout cas.
Voilà. Elle rentre, oui, c'était à la fin du 19e siècle, hein. Elle est née en 1873. Elle rentre au Carmel à l'âge de 15 ans et demi. Et 6 mois après son entrée au Carmel, Monsieur Martin, Louis Martin, commence une maladie nerveuse, très grave, avec des hallucinations. Il devient dangereux. Et donc, il doit être interné.
Jusqu'à un jour menacé avec un fusil. Vous pouvez raconter cet épisode, peut-être ?
Oui. Ben, il a eu des hallucinations. Donc, il croyait que des ennemis dangereux allaient débarquer dans sa maison. Et donc, pour protéger sa famille, les filles qui lui restaient, il a sorti son fusil. Et il menaçait de tirer sur quelqu'un qui aurait pu arriver à ce moment-là. Donc, il était vraiment devenu dangereux.
Il faut préciser aussi que Louis Martin, c'était un bourgeois, un notable. Je veux dire, c'était un homme de bien, comme on dit, qui avait eu une vie. Bon, il avait certes perdu son épouse, mais enfin, il avait des filles qui étaient jolies. Il allait à la pêche. Voilà,
c'était un homme doux. C'était un homme très doux et très bon. Donc là, il n'était vraiment plus lui-même. Donc, il a dû être interné en hôpital psychiatrique à Caen. Et Thérèse, à ce moment-là, a 16 ans. Donc, il faut imaginer une petite jeune fille, toute simple. Elle a 16 ans, elle est dans son Carmel. Donc, quand on rentre au Carmel, c'est pour ne plus en sortir. Hein. Et c'est une vie cloîtrée, une vie monastique très exigeante pour les femmes, surtout, pour les carmélites. Et donc, elle ne peut plus en sortir. Son père vit cette épreuve terrible. Deux de ses sœurs suivent le papa à Caen pour essayer de s'en occuper, de le voir. Elles peuvent le voir une fois par semaine.
Elle ne peut plus en sortir, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas sortir du Carmel pour aller juste rendre visite à son père.
C'est ça, elle ne peut pas rendre visite à son père. Elle est dans son Carmel, elle ne peut pas rendre visite à son père. Heureusement, il y a deux grandes sœurs qui sont rentrées au Carmel avant elle, qui sont là aussi. Mais elle souffre profondément, d'autant plus que certaines mauvaises langues, jusque dans la communauté, disent que c'est à cause d'elle, de son entrée si jeune au Carmel, que M. Martin a déclenché cette maladie psychologique. Donc on peut imaginer la souffrance très vive de Thérèse à ce moment-là. Alors, heureusement, nous avons des lettres d'échanges entre Thérèse et sa grande sœur Céline qui est à Caen. Et Thérèse exprime ce qu'elle vit. Elle exprime sa souffrance dans ses lettres. Et au début, elle est pleine de courage. Hein. Elle dit « il faut boire le calice jusqu'au fond, souffrir avec le Seigneur ». Donc elle a un grand courage. Et puis petit à petit, on sent que ce courage s'amenuise parce que la souffrance est telle qu'elle ploie, elle aussi. Et elle écrit d'ailleurs « j'avoue que ce mot de paix me semblait un peu fort l'autre jour en y réfléchissant ». La paix commence à lui manquer, elle commence à souffrir tellement que ça devient trop dur, trop lourd à porter. C'est ce que tous nous pouvons vivre. On peut tous vivre ça. Il y a ce moment où la souffrance est trop intense. Ce qui est très beau, c'est ce qui s'est passé alors en Thérèse. Plutôt que se replier sur sa souffrance, elle s'est unie au Christ. Et elle écrit une lettre extraordinaire à sa grande sœur Céline, qui est donc à Caen, auprès du papa. Et elle termine par ces mots « Jésus brûle d'amour pour nous. Regarde sa face adorable. Regarde ses yeux éteints et baissés. Regarde ses plaies. Regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il nous aime. » Regarde Jésus dans sa face, dans son agonie, son visage perlé de sang, de souffrance, de sueur. Regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il nous aime. Au moment où
est-ce que vous pouvez expliciter ça? Parce que on peut aussi, même quand on est croyant, d'abord voir, à l'occasion de ce jeudi saint, qu'on fait mémoire d'un homme qui a juste souffert terriblement. Donc on se dit, regarder quelqu'un qui souffre terriblement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus consolant.
Il souffre parce qu'il aime. Il souffre parce que le sens même de sa souffrance, c'est son amour. On pourrait en parler pendant une heure, hein. Mais la logique même de, et Thérèse d'ailleurs, la même petite Thérèse le dit très très bien, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Et Jésus, dans toute sa vie, est en continuel abaissement. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il est Dieu de toute éternité, il s'abaisse, il vient parmi les hommes, et quand il est parmi les hommes, il continue à s'abaisser, il sert les pauvres, il sert les malades. Et dans sa passion, il continue à s'abaisser. Il va chercher au plus profond, chacun d'entre nous, dans notre péché le plus profond, dans notre souffrance, dans nos ténèbres. Il vient nous chercher, il s'abaisse. Et cette immense descente est la mesure de son amour. Et donc, ce visage déchiré, ces perles, ces gouttes de sang, cette immense souffrance, elle exprime son amour. Derrière, c'est son amour qui nous porte et qui est tellement grand, qui est tellement fort, qui est l'acte le plus grand d'amour de toute l'histoire de l'humanité, qu'il rejoint en fait tout homme. Regarde Jésus dans sa face, et là tu verras comme il nous aime. Et au moment où j'ai raconté l'histoire de la petite Thérèse à cet homme, qui était dans cette souffrance psychologique qu'il me confiait, je lui ai simplement lu ces quelques phrases, et après il y a eu un grand moment de silence. Et dans ce silence, je suis convaincu que le Christ l'a rejoint. Je suis convaincu que le Christ a touché son cœur. Mystérieusement, hein, d'une manière qui nous échappe. Mais lorsqu'on rejoint le Christ dans son agonie, dans sa passion, dans sa croix, avec un regard de foi et d'amour, le Christ répond. Le Christ touche nos cœurs.
Alors qu'est-ce que vous diriez à tous les auditeurs qui nous écouteraient, et je sais qu'ils sont nombreux, qui seraient malades, isolés, qui vivraient ou qui ont vécu récemment des situations comme ça de souffrance extrême? Ce qu'on entend en fait dans ce que vous dites, c'est que le génie de Sainte Thérèse de Lisieux, et ce qui fait qu'elle est devenue probablement docteur de l'Église, c'est que vous disiez en fait elle s'est pas repliée sur sa souffrance, mais elle a regardé Jésus. Alors est-ce à ce mouvement que vous inviteriez les auditeurs? Est-ce que vous pourriez peut-être leur donner un conseil?
Oui, c'est ce conseil de Thérèse d'Avila, hein, la grande, les deux Thérèses étant très proches en fait, qui synthétise tout son enseignement à un moment dans un ouvrage en disant « Je ne vous demande qu'une seule chose, regardez-le. Regardez le Christ. Prenez du temps à regarder le Christ. Prenez un crucifix, regardez le Christ. Prenez des images, regardez le Christ. » Quand vous pensez au Christ, quelle est l'image qui vous vient? Eh bien, prenez du temps à regarder cette image. Et cette image, en fait, ce visage, il est dans votre cœur. Il est inscrit dans votre cœur. Et donc, regardez Jésus. Je ne vous demande qu'une seule chose. Regardez-le.
Oh, solitude, my sweet.
Voilà cette émission, donc ce mag, cette émission Vivante Église en direct du couvent des Carmes à Toulouse. Nous sommes heureux donc de retrouver les auditeurs, et puis je le dis aussi puisque c'est la communauté entre guillemets des auditeurs de Radio Présence s'agrandit à l'occasion de ce Tridium Pascal. Vous êtes donc des auditeurs de Radio Ecclesia autour de Nîmes, de Radio Lapourdie dans le diocèse de Bayonne et de Radio Fidélité en Mayenne qui nous rejoignez. On est heureux de passer du temps avec vous et on va en tout cas se donner du mal pour essayer de vous aider à vivre ce Tridium Pascal comme il se doit. Aujourd'hui pour cette émission sur le Jeudi Saint au Carmel, nous sommes pour rappel pour ceux qui nous rejoindront en cours de route avec le frère Maximilien Marie, qui est prêtre religieux dans ce couvent des Carmes à Toulouse et donc qui est maître de chœur. Puisqu'on a un petit peu de temps, je vais vous poser une ou deux petites questions quand même sur, on va dire, l'envers du décor. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble une cellule ? On se fait toujours l'idée d'une cellule monastique, on se dit « mon Dieu, c'est quand même bien sec, vous avez quand même le droit de mettre quelques tableaux au mur ou pas du tout ?»
Oui, effectivement. La cellule d'un carme, c'est un peu comme une grotte. C'est notre grotte à chacun. Et on l'habille un petit peu comme on veut. C'est important d'y être bien. Et j'ai la joie d'être formateur un des formateurs de nos jeunes frères. Et c'est vrai que c'est une question sur laquelle on insiste de passer du temps dans sa cellule. Et pour passer du temps dans sa cellule, il faut y être bien. Et donc, c'est bon d'avoir quelques petites décorations personnelles, d'avoir un peu des touches personnelles. Et en même temps, il faut un certain dénuement. Parce que sinon, on va être retenu par tout un tas de choses et on n'arrivera pas à rentrer dans le silence. Il faut une certaine propreté, il faut un peu d'ordre. Et moi, je vois bien dans ma vie spirituelle, quand ma cellule est en désordre, eh bien, j'ai plus de mal à prier.
Quand vous dites que vous passez du temps dans votre cellule, c'est-à-dire vous y passez combien de temps par jour ?
C'est très variable. C'est très très variable en fonction des ministères, hein, en fonction des apostolats que nous avons pour les jeunes frères qui vont passer des heures de cours à l'Institut catholique ou au grand séminaire, avec toutes les heures de prière que nous avons dans l'église, ça peut aller en plus de la nuit, je sais pas, de 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, des temps de vacances comme en ce moment pour les jeunes frères, ils peuvent y passer 7-8 heures.
Voilà. Et puis il y a le grand silence de la nuit aussi. Là, ça, on l'entendra pas à l'antenne, mais ça vaut le coup d'en dire un mot aussi. C'est
oui, à partir des complis,
comme dans tous les monastères.
Tout à fait. À partir des complis jusqu'au laude du lendemain, nous avons ce temps où vraiment nous sommes vigilants à ce que non seulement les bruits de paroles soient évités, mais même les bruits physiques, on ne va pas passer l'aspirateur par exemple, et puis même les activités qui nous mangeront un peu, qui feront du bruit dans notre cœur, dans notre tête, comme regarder Internet par exemple, on essaiera d'éviter.
Alors dans cette dernière partie, je vous ai demandé, et vous avez accepté, vous et d'autres frères, et je vous en remercie, parce qu'on imagine que c'est pas chose facile, même si sur des antennes comme Radio Présence, on est habitué à avoir des gens qui témoignent. Je vous ai demandé de parler un petit peu à la première personne, en essayant d'éclairer ce mystère du jour, qui est le jeudi saint, que l'on essaye de contempler ensemble et de comprendre. Vous vouliez, pour nous aider à rentrer dans ce mystère du jour, forcément parler de vous, mais remonter à votre vocation, vous me disiez que vous avez rencontré en fait Dieu à l'âge de 15 ans, ou en tout cas vous avez vécu une conversion, c'était en 1995. Commencez peut-être par nous donner quelques éléments sur votre chemin de vie.
Alors je suis né en 1980, donc voilà, j'ai 39 ans aujourd'hui, et l'un des grands moments de ma vie qui a décidé ma vocation s'est passé en 1995, comme vous venez de le dire. J'habitais Metz. Et à Metz, qui est encore sous le concordat, c'est-à-dire que même dans les lycées publics, il y a des cours de religion. Au cours d'un cours de religion, alors que j'étais déjà chrétien, catholique, pratiquant, mais d'une foi qui était la foi de mes parents, plus que ma foi à moi, pendant un cours de religion, notre responsable, la dame qui animait ces cours, m'a proposé de venir avec elle et un petit groupe à Thésée, pour une semaine de rencontre à Thésée, comme il s'en vit toutes les semaines. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai accepté. Et arrivé à Thésée...
Alors Thésée, il faut dire deux mots. Donc, oui. C'est situé en Bourgogne, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un grand lieu de rassemblement de dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui. On va dire parfois que Thésée, c'est un peu le poumon spirituel, en tout cas de la jeunesse en Europe. Et ça a été fondé donc par frère Roger. Voilà. Et donc, s'y retrouvent des jeunes qui prennent des temps de prière et aussi de prière silencieuse.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est important de le mentionner, c'est une communauté œcuménique, donc avec des protestants, avec des anglicans, avec des orthodoxes, des catholiques, bien sûr. Et c'est très important, c'est un lieu d'unité. C'est un lieu où on travaille l'unité dans la prière. Et donc, à Thésée, dès le premier soir, je crois, notre responsable de catéchisme, Chantal, m'a proposé, m'a dit, tu vois, au fond de l'église, après la prière du soir, il y a le frère Roger qui est là. Le frère Roger, à ce moment-là, il avait plus de 80 ans. C'était déjà un vieux monsieur, et avec une douceur extraordinaire. Et on pouvait rencontrer très brièvement le frère Roger. Alors, mais moi, de la même manière que je suis allé à Thésée, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui et je suis allé voir le frère Roger, qui bénissait juste les jeunes. Alors, on était 20, 30 à faire la queue pour juste avoir la bénédiction, la petite croix sur le front. Et puis, quand je suis arrivé devant un frère Roger, je ne sais pas pourquoi, mais... on est resté en tête-à-tête pendant 15 à 20 minutes. Et on parlait. Et moi, je me souviens plus du tout de ce qu'il m'a dit. Je me souviens de son regard. Il avait un regard extraordinaire. Et en fait, tous les soirs de la semaine, je suis allé le retrouver. Et tous les soirs, j'avais ce regard-là qui était braqué sur moi avec une profondeur. Et je savais que derrière ce regard, il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait une autre profondeur qu'une petite personne humaine. Voilà, et ça m'a... profondément ému, profondément marqué. Et le samedi, juste avant de partir, on partait dans l'après-midi, alors que j'étais seul, je priais avec les autres jeunes, mais j'étais pas avec le frère Roger, j'ai eu la conviction à la fin d'une prière, j'ai eu la conviction que Dieu existait, qu'il m'aimait et qu'il m'appelait. Et c'était la première fois que je percevais cela. Et c'était tellement fort que... d'un seul coup, s'est décidée ma vocation, en fait. Au retour dans le train, Chantal, elle a bien vu que j'étais pas normal, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle m'a dit « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux devenir frère, c'est ça ?» Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Oui ». Et en disant « Oui », j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait quelque chose de définitif qui s'était fait. Et depuis, je suis jamais revenu là-dessus.
Alors vous me disiez en préparant l'émission que il y a eu derrière une rencontre avec l'Église, une rencontre avec le Carmel. Je vois le temps qui passe, on a peut-être le temps de parler un petit peu de votre rencontre avec le Carmel et puis du début de votre vie dans le Carmel. Vous avez après découvert au cœur du Carmel une solitude à laquelle vous ne vous attendiez pas et vous étiez rentré et vous avez fait face à cette solitude.
Oui, tout à fait. En fait, c'est allé très vite, hein, à partir de 95. Il y a eu la rencontre de l'Église en 97 avec les JMJ. Là, j'ai vraiment pris conscience de la beauté du mystère de l'Église. J'ai rencontré le Carmel en 98. J'ai reçu le scapulaire. D'autres frères vous en parleront sans doute.
Le scapulaire, c'est ?
C'est le manteau de la Vierge Marie dont nous sommes recouverts au Carmel. Et puis en l'an 2000, je suis rentré. Je suis rentré au Carmel, au postulat, à Montpellier.
Vous aviez donc
20 ans.
20 ans.
Tout juste. Et je peux dire, m'approprier la parole de la petite Thérèse qui dit dans mes premiers pas au Carmel, j'ai rencontré plus d'épines que de roses. Effectivement, le début n'a pas été simple. Les premières années ont été très exigeantes. Très exigeante parce que bon, j'étais heureux au Carmel, j'étais heureux de porter cet habit, de vivre avec mes frères, j'étais heureux de prier avec eux, j'étais heureux de plein de choses, mais la solitude me pesait. La solitude me pesait beaucoup, le silence était dur à porter, j'étais loin de mes amis, j'étais loin de ma famille. On a 10 jours de séjour en famille par an, donc c'est pas beaucoup. Et c'est une solitude qui petit à petit s'est faite plus intense. Jusqu'en 2005. En 2005, j'étais étudiant à Toulouse. Et durant l'été 2005...
Excusez-moi, juste sur la solitude, parce que ouais. Je pense aux auditeurs. C'est le fait de passer beaucoup de temps en silence ou c'est le fait qu'on soit en fait renvoyé dans cette vie que vous avez au fait que, dans le fond, on est tous un petit peu seuls. Qu'est-ce que vous diriez pour
les
caractériser
deux. Les deux vont ensemble. L'un appelle l'autre, c'est-à-dire que de passer beaucoup de temps en silence nous fait prendre conscience de notre pauvreté intérieure, nous fait prendre conscience que... Ben voilà, on est très seul, que parfois on s'ennuie beaucoup d'ailleurs, que les proches du cœur sont parfois loin. Et puis la vie communautaire, c'est très très beau, c'est le lieu des plus grandes joies, mais c'est aussi le lieu de grandes souffrances. Et donc parfois ça tiraille. Et donc parfois c'est rude d'être seul.
Alors la manière après, c'est comment vous en êtes sorti. C'est ça qui peut aussi éclairer le mystère de ce jour. Il faut rappeler aussi que voilà, le jeudi saint, c'est évidemment le temps aussi de la solitude de Jésus. Hein.
Tout à fait.
On en a parlé dans la deuxième partie, ouais. C'est le moment où il est tout seul. Quoi.
Oui, ouais, tout à fait. C'est ça qui me marque le plus dans ce jour-là, dans ce jour du jeudi saint, cette agonie du Christ seul. C'est pas pour rien que ce soit au moment où il est seul que des gouttes de sang ont perlé sur son visage. Hein, cette solitude est parfois un immense mystère. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette solitude douloureuse? En 2005, j'ai demandé à mes supérieurs de pouvoir faire ma retraite annuelle. On passe une journée de silence par an et on peut choisir le lieu à Thésée. Alors c'était assez inhabituel parce que c'est pas tout à fait un lieu de silence, Thésée. Et donc je suis allé à Thésée après les JMJ. Les JMJ avaient lieu début août, et dans la deuxième partie du mois d'août, je me suis retrouvé à Thésée. Et moi, ma grande joie, c'était de retrouver le frère Roger. Or, le frère Roger est mort pendant les JMJ. Il est mort à Thésée pendant les JMJ, assassiné dans l'église, c'était un moment terrible. Et moi qui étais si heureux de retrouver le frère Roger, j'arrive à Thésée, et le frère Roger vient de mourir. Et donc, c'était une solitude encore plus intense. Et je me souviens très bien du moment où je me suis approché du lieu où frère Roger priait tous les jours, et sur le sol, il y avait encore, qui était en moquette, il y avait encore des taches de sang du frère Roger. Un moment pour moi de souffrance, hein, de grande tristesse et de grande solitude. Et en fait, la retraite s'est déployée, et je crois que frère Roger a prié pour moi, je crois qu'il y a une grâce. Il y a un moment où j'ai pris conscience que cette solitude, c'était un cadeau en fait. Un cadeau que Dieu me faisait, que c'était le type de relation qu'il me proposait. C'était comme ça qu'il voulait rentrer et déployer une amitié avec moi, à travers la solitude et le silence. Et à ce moment-là, j'ai dit oui, d'une certaine manière. J'ai compris que c'était ça, qu'il m'appelait à ça, et qu'il allait me rendre heureux, mystérieusement, à travers cela.
Et puis, il y a eu un deuxième événement. Un matin, vous vous êtes levé un peu trop tôt, c'était un matin de Noël, et qui a été la suite de cette invitation que vous aviez ressentie.
Oui, 4 mois plus tard, j'étais ici même, dans notre couvent de Toulouse, et je voulais me lever pour la messe des bergers. La messe des bergers, c'est la petite messe qu'on célèbre tout discrètement avant les laudes le matin de Noël.
Donc le 25, c'est ça ?
Le 25 au matin. Et je voulais me lever pour ce moment-là, et puis en fait, je me suis trompé d'une heure dans mon... En réglant mon réveil, j'ai dû mettre mon réveil à 5h30 ou 6h au lieu de le mettre à 6h30. Et je me suis retrouvé tout seul dans cette grande église devant la crèche. Et au début, j'ai pas compris que je m'étais trompé. Puis à un moment, je comprends, je regarde ma montre, je vois qu'il y a personne. Et en fait, je décide de rester. Et là, devant la crèche, j'ai pris conscience que Dieu était là, qu'il m'attendait en fait. Il m'a rien dit, hein. J'ai pas eu de révélation. J'ai juste eu cette certitude, comme 10 ans avant, 10 ans avant à Thésée, cette conviction que Dieu était là et qu'il m'attendait et qu'il était avec moi et qu'il serait toujours avec moi. Et cette conviction que Dieu est là et qu'on n'est jamais seul. Il est là avec nous. Et c'était pas du tout prémédité parce que j'avais pas du tout. Enfin, c'est vraiment une erreur d'avoir réglé mon réveil si tôt. Je m'y attendais pas du tout. Et en fait, Dieu est là, c'est vraiment le message de Noël, l'Emmanuel, Dieu avec nous.
Qu'est-ce que vous diriez pour finir? Il nous reste, on va dire, une minute ou deux. Quelle invitation vous devriez lancer aux auditeurs ou quelle question en conclusion de cette émission, de cette méditation sur le Jeudi Saint et puis de ce témoignage généreux?
Mais je voudrais reprendre cette actualité dans cette église déchirée, cette église en feu. De manière très mystérieuse, Dieu est là. Dieu est là peut-être, d'abord il est toujours dans son église, il en est la tête, comme nous le dit saint Paul, nous en sommes les membres, mais peut-être plus encore. Voilà, quand nous sommes seuls, quand nous sommes dans la tristesse, dans la solitude, dans le silence, que parfois nous n'avons pas choisi, nous rappeler que Jésus a vécu cela et qu'il est là, il est là auprès de nous. Et tous les petits actes que nous pouvons poser, tous les actes de foi, les actes d'espérance, tous les petits actes de charité, et puis surtout tout ce que nous pouvons poser dans le sens de l'unité, de la communion et du pardon. Petits actes courageux, parfois douloureux, seront des pierres que nous allons poser pour la reconstruction de notre Église. J'ai beaucoup aimé cette parole de l'archevêque de Paris qui a dit devant Notre-Dame de Paris ravagée, il nous faut bien sûr rebâtir un bâtiment, mais il nous faut surtout reconstruire notre Église. Et bien voilà, dans notre solitude, chaque petit acte de charité, de foi, posé dans la discrétion et dans le silence, sera une pierre posée pour la reconstruction de notre Église.
Eh ben merci beaucoup, frère Maximilien, de nous avoir accueillis donc ce matin, d'avoir accueilli ce mag et cette émission Vivante Église et de votre témoignage généreux. Rendez-vous est donné donc demain matin pour une deuxième émission, le Vendredi Saint au Carmel. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret.